Lire et délire.
Il y a 50 gosses dans l'escalier. Il y a 50 gosses dans l'escalier d'une HLM de Gennevilliers. Et sur les murs, ils ont dessiné des chevaux et des poissons dans les ruisseaux. Et des petites maisons illuminées qui font plein de fumée dans les trous de nez. Il y a 50 gosses dans l'escalier. Et sous le néon des plafonniers, ils font du bruit. Plus entendre le gai folklore des cannes de tout, des transistors et tout le boucan de cette cité qui n'en peut plus se supporter. Il y a 50 gosses dans l'escalier qui passent leurs vacances d'écoliers et sur la rampe, à défaut de sport d'hiver, ils font du tire-fesse à l'envers. Et pourtant, il y a de la neige dehors, mais celle d'ici nous fout la mort. Il y a 50 gosses dans l'escalier, derrière les portes de chaque palier. Il y a des pauvres gens qui n'iront jamais voir la mer, et au boulot, la triste gueule d'un petit sous-chef qui les engueule. Il y a 50 gosses dans l'escalier. On lit sur les murs écaillés des graffitis qui dit « Thierry aime Corinne, dégueulasse à la cantine. Le type du quatrième me saoule, le père d'Éric va voir les poules. » Il y a 50 gosses dans l'escalier. Ils veulent pas connaître l'atelier où bosse leur vieux, qui à 30 ans vous fout le vertige, on lui donnerait plutôt 100 piges. Le dimanche, il veut même plus sortir. Il a qu'une envie, c'est dormir. Il y a 50 gosses dans l'escalier. Les filles, plus tard, veulent pas se marier pour faire des mômes dans cet univers de déprime. Malgré vos sourires et vos primes, s'il y a plus d'enfants, mes bons apôtres, il faudra bien donner les vôtres. Il y a 50 gosses dans l'escalier qui rêvent du jour où ils vont se tailler sur une moto, pour tout bagage, une vieille guitare, vers des bleds qui sentent pas le cafard, vers des copains et un soleil qui chauffe un peu plus que celui de Créteil. Il y a 50 gosses dans l'escalier.
Chaque année, la famille au grand complet, moins grand-père qui a toujours une bonne excuse pour rester à la maison, un vague rhumatisme, une partie de domino, une légère douleur dans les articulations, un gros rhume, un petit cancer, doit aller présenter ses vœux à Tata Madeleine et Tonton Maurice. On a tout le mois de janvier pour y aller. Alors on laisse passer la première semaine. On se dit qu'on a bien le temps. Suite aux excès des réveillons, il convient qu'il est préférable de répartir les punitions. Le 14 janvier, maman se souvient de ses devoirs.
Il faut qu'on aille chez Tata Madeleine et Tonton Maurice.
Le 17, maman pose une question qui reste sans réponse.
Quand est-ce qu'on va aller chez Tata Madeleine et Tonton Maurice?
C'est le 24 janvier que, feuilletant un magazine télé, elle tombe sur une photo d'Alice Sapritch, folcoche de Vipère au Point, et se souvenant, par association d'idées de sa tante Madeleine, elle s'écrie avec un rien de panique dans la voix.
On n'est toujours pas allé chez Tata Madeleine et Tonton Maurice.
Le 25 janvier, elle se décide, pose le téléphone devant elle, prend sa respiration, saisit son combiné comme on saisit son destin à bras le corps, compose enfin le numéro. La voix de Madeleine est lointaine, plaintive, minuscule. Elle veut bien faire comprendre à ma mère que si elle a assez de courage pour répondre une dernière fois au téléphone, elle va mourir juste après, là, dans un petit quart d'heure ou plus tard. Aussitôt qu'elle raccroche, elle décroche. Elle prévient que Maurice est bien diminué. Maman promet qu'on viendra dimanche prochain. Le dimanche arrive, on est le 28 janvier et c'est une longue journée. Maurice est diminué, bien sûr, mais pas tellement plus que l'année dernière. Madeleine est agonisante, évidemment, mais pas tellement moins que l'année prochaine. On est là, inutile. On ne bouge pas trop de peur de faire tomber un bibelot. On rêvasse. On entend parler de gens qu'on ne connaît pas ou qu'on ne cherche pas à connaître. On comprend qu'il est question de topinambours et de rutabaga, de marchés noirs et de tickets de pain, de trains qui déraillent. On mange de la mousse au chocolat trop sucrée. Comme on s'ennuie, on en mange trop. On a envie de vomir un peu. Au moment de partir, Tata Madeleine dit à Sébastien.
Tu vas rester avec moi? Tu vas être bien avec moi.
Sébastien pleure et Madeleine rigole. Comme c'est triste. Combien de temps encore serons-nous les otages de ces dimanches d'ennui?
Ici, on jouait au sous-sol, demanda Émilie.
On n'a pas le droit d'y aller, rétorqua Léo. On pourrait se faire gronder, et puis...
T'as la frousse, c'est ça? Se moqua Émilie. Et c'est justement cela qui est amusant. Allez, viens! Émilie et Léo s'éloignèrent discrètement de leur chambre. Ils descendirent par un minuscule escalier qu'ils n'avaient jamais emprunté. Encore quelques marches, et ils seraient dans le sous-sol.
La pièce est drôlement lugubre, remarqua Léo en tremblant.
Regarde! Regarde là! Il y a un couloir! Allons-y! S'emballa Émilie, qui n'était pas de naturel peureux. Devant eux s'étirait un long corridor sombre. Des objets cireux s'entassaient sur des étagères. Ils s'approchèrent à tâtons. À mesure qu'ils avançaient, les toiles d'araignées devenaient plus épaisses. Sur le sol, des cartons de vaisselle d'un autre temps, des bibelots ébréchés. Soudain, des bruits de pas les firent sursauter.
« Tu entends ?» s'enquit Léo.
« Chut !» murmura Émilie, qui faisait un peu la fière.
« Qu'est-ce que ça peut être ?»
Ils eurent tout juste le temps de se nicher derrière vieux draps dévorés par les mythes. Quelqu'un approchait. Il marche lourdement.
« Ce doit être un géant.
Oh, »« Ne raconte pas de bêtises, ça n'existe pas. Chut, tais-toi !»«
Il y a quelqu'un ?» demanda l'inconnu.
« Oh, c'est une voix de fille !» s'amusa Émilie.
« Ses pas feraient pas trembler la terre entière. C'est sûrement un ogre qui fait semblant d'avoir une voix douce. »
La créature n'était plus qu'à quelques mètres à présent.
« J'ai peur !»«
Chut !» intima Émilie. Tremblait de tout son être et le drap remuait comme s'il était parcouru de spasmes.
« Qui est caché là ?» demanda la petite voix. « C'est toi, Moustache ?»«
Qui c'est, Moustache ?»«
Je sais pas, mais à trois, ordonna Émilie, on part en courant. T'as compris ?»
« J'y arriverai pas !» protesta Léo.
« Si, si, tu y arriveras. T'auras pas le choix. » Elle commença à compter. « 1, 2, 3 !» Elle sortit de sa cachette brusquement et se retrouva nez à nez avec une fillette d'une dizaine d'années. Une petite brunette aux grands yeux clairs et aux cheveux en pétard. Émilie hurla. Elle n'avait jamais rien vu de pareil. Elle attrapa Léo par le bras et courut plus vite que jamais. De son côté, la fillette resta pétrifiée. Il lui fallut au moins 2 minutes pour se mettre à crier à son tour. Sa langue était comme paralysée dans sa bouche.
« Au secours! Au secours! Maman! Il y a des fantômes dans le couloir! Des fantômes !»
Émilie et Léo arrivèrent chez eux encore bouleversés par la rencontre qu'ils venaient de faire. Ils racontèrent leur effroyable aventure à leur mère qui les serra dans ses bras.
« Mes chéris, il va falloir vous habituer aux humains. Vous en rencontrerez d'autres dans votre vie de fantômes.
Oh, »« ils sont vraiment affreux !» s'écrièrent-ils encore tout tremblants.
Lire et délire.